les amphis d'Amicus. Chaque semaine, Amicus Radio invite des professeurs de droit, des chercheurs et des professionnels à venir faire cours dans leur spécialité. L'occasion pour un fin spécialiste de relever le défi de traiter en 5 épisodes d'une question juridique essentielle.
Dans cette édition spéciale, le Conseil constitutionnel nous parle de la question prioritaire de constitutionnalité. Épisode 2. QPC, mode d'emploi. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans ce deuxième épisode qui nous est présenté par Madame Corinne Luquiens, ancienne secrétaire générale de l'Assemblée nationale et membre actuel du Conseil constitutionnel depuis le 8 mars 2016. Avant de nous offrir un éclairage précis sur la procédure de la QPC, Madame Luquiens réagira au micro-trottoir suivant.
Selon vous, à quoi sert la Constitution en France ?
Elle sert à définir des grandes règles qui encadrent même la législation qui se fait au jour le jour.
À encadrer et à aider à faire respecter les lois et s'assurer que tout reste sous une forme de contrôle.
Ouais, l'équilibre des pouvoirs. Ouais.
Selon moi, elle sert de base à... au droit en France, et elle permet de garantir un cadre légal assez global sur des thématiques assez larges, mais ouais, je dirais une sorte de garde-fou, de grand cadre pour pouvoir créer, modifier et garantir le droit en France.
La Constitution, elle sert à donner un cadre à la fois aux lois qui sont promulguées, pour qu'elle respecte effectivement une idée globale, une idée générale, qui est celle de la Constitution, justement, et puis à protéger également contre les dérives, les abus, les différentes choses qui pourraient éventuellement atteindre la liberté des citoyens.
Quel est le rôle du Conseil constitutionnel ?
Alors pour moi, c'est justement de vérifier que les lois, entre autres, qui sont passées, respectent la Constitution et ne soient pas anticonstitutionnelles. C'est un peu des garants ultimes de la légitimité de ce qu'on fait, non ?
Ouais, ça me paraît très bien ce que tu dis.
Alors, je suis peu au fait, mais je dirais que son rôle, c'est justement d'étudier les questions qu'on lui soumet, légales, et de s'assurer qu'on fonctionne bien dans le cadre de la Constitution. Et le cas échéant, de se positionner là-dessus. On dirait ce qu'on rentre dans ce cadre-là.
Le Conseil, il est là pour, en fonction de la Constitution, veiller à ce que tout ce qui est promulgué, c'est-à-dire les lois en particulier, rentre dans ce cadre-là. Et ils ont un pouvoir qui est important puisqu'ils sont capables effectivement de stopper éventuellement la promulgation d'une loi.
Qu'est-ce que les lettres QPC vous évoquent ?
Moi, je vais être honnête, rien.
Ah, si, c'est genre... C'est un truc sur la République, là.
Question prioritaire de constitutionnalité.
Je crois rien du tout, par contre. QPC, je sais pas, j'aurais tendance à dire Québec, parti, quelque chose comme ça, mais j'en sais rien.
Alors là, vous me posez une colle. QPC. Ah, question prioritaire de constitutionnalité. Voyez, vous m'avez appris quelque chose.
Bon, alors je voudrais d'abord réagir au micro-trottoir que vous avez réalisé et vous dire que finalement, je trouve que les résultats ne sont pas si mauvais. Il me semble que les personnes que vous avez interrogées ont bien en tête ce que représente la Constitution et en particulier, certains d'entre eux mentionnent, sans le faire de façon aussi explicite, mais les droits et libertés. Ils ont conscience qu'effectivement, la Constitution est là pour ça. Et il me semble qu'ils ont bien aussi conscience du fait que le Conseil constitutionnel est là pour veiller à ce que les lois soient conformes à la Constitution. Et bon, ils parlent du droit, je pense qu'ils le font d'une manière qui implique qu'ils ont bien conscience que le droit, c'est protéger les droits, les droits des citoyens. Donc, bon, évidemment, l'interview sur les termes de QPC est un peu plus décevante, mais peut-être est-ce une erreur du législateur d'avoir choisi ce terme qui est un petit peu compliqué et qui n'est pas forcément facile à comprendre pour tous les citoyens. Mais bon, dans l'ensemble, je suis plutôt agréablement surprise par ce micro-trottoir.
Comment une QPC est-elle introduite ? Qui peut l'initier ? Devant quelle juridiction peut-elle être présentée et selon quelles modalités ?
La procédure de la question prioritaire de constitutionnalité, que j'appellerais QPC, même si les termes sont mal connus, parce que c'est quand même un peu plus rapide, est caractérisée par sa souplesse. L'idée, c'était d'ouvrir un recours aussi large que possible. Bien sûr, c'est un recours qui est entre les mains des citoyens, alors que le recours, a priori, lui, donc dépend d'autorités politiques, mais bien sûr un citoyen justiciable, c'est-à-dire que c'est dans le cadre d'une procédure qu'un justiciable, une personne qui est partie dans une instance judiciaire, quelle qu'en soit la nature, ça peut être une instance pénale, ça peut être aussi une instance civile ou une instance administrative, peut soulever donc cette QPC en soutenant que la loi qui est susceptible de lui être appliquée, donc il faut que ce soit une loi qui effectivement concerne le litige dans lequel il est parti, cette loi n'est pas conforme à la Constitution. Alors, ça peut être soulevé, donc, puisque c'est dans toutes les instances, devant toutes les juridictions, à l'exception notable quand même de la cour d'assises pour ne pas interrompre un processus, ce qui serait tout à fait fâcheux, mais donc devant toutes les juridictions, en première instance, et aussi donc en appel, et éventuellement même donc en dernière instance, s'il y a lieu, c'est-à-dire devant les juridictions de cassation, que sont donc la Cour de cassation ou le Conseil d'État. Alors, c'est donc une procédure qui est également très souple quant à ses modalités, c'est-à-dire que il faut simplement que le justiciable qui soulève cette QPC présente un mémoire distinct pour bien que les choses soient simples pour la juridiction, qu'elle voit bien la nécessité de commencer par statuer sur cette QPC avant de statuer sur le fond de l'affaire. Alors, lorsque donc une juridiction est saisie d'une QPC, elle se prononce sur cette QPC. Pourquoi QPC ? C'est là que intervient le P, c'est-à-dire prioritaire. C'est la question sur laquelle elle doit statuer en priorité, et cela interrompt le reste de la procédure. C'est-à-dire que l'affaire elle-même, sur le fond, ne va pas être jugée avant que, le cas échéant, si effectivement les filtres successifs considèrent que cette question mérite d'être renvoyée au Conseil constitutionnel, donc avant que cette question ait été tranchée par le Conseil constitutionnel. Bon, il y a quelques exceptions lorsqu'il s'agit d'une affaire qui met en cause la liberté d'une personne. Si, par exemple, cette QPC est soulevée à l'occasion d'une détention préventive, dans ces cas-là, le juge peut statuer une demande de mise en liberté, par exemple. Mais si, par hasard, ça a été le cas, s'il a dû statuer lorsque le Conseil s'est prononcé, le cas échéant, bien sûr, il devra revoir sa décision en fonction, donc, de la décision du Conseil constitutionnel. Alors, le principe qui a été mis en place pour éviter des procédures dilatoires qui, en fait, auraient été utilisées uniquement pour retarder et bon, des procédures aussi qui ne seraient pas sérieuses, il y a un mécanisme de filtre. C'est important que, effectivement, le Conseil ne soit pas saisi d'un nombre extrêmement important de QPC sans avoir la certitude qu'il ne perd pas son temps. Donc, joue le rôle de filtre, d'abord, la première juridiction devant laquelle la QPC est soulevée, donc ça peut être une juridiction de première instance ou une juridiction d'appel, et si ces juridictions considèrent que la question n'est pas dénuée de sérieux, car à ce stade, il faut simplement qu'elle ne soit pas dénuée de sérieux, donc c'est un contrôle relativement léger qui est exercé, la question est renvoyée devant le juge de cassation, donc selon la nature de la juridiction, soit la Cour de cassation, soit le Conseil d'État, et le Conseil d'État ou la Cour de cassation se prononce à son tour, c'est lui qui est le juge du filtre ultime, se prononce à son tour, donc pour savoir si la question mérite d'être renvoyée au Conseil constitutionnel. Alors il y a plusieurs conditions à ça. La première, c'est que la loi qui est contestée eh bien, un lien avec l'instance judiciaire au cours de laquelle elle est soulevée. Il faut que ce soit effectivement la loi qui est susceptible d'être appliquée au justiciable qui soit contestée. Il faut d'autre part que cette loi n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Et pour faciliter le travail des juridictions, le Conseil constitutionnel a sur son site une liste de l'ensemble des lois sur lesquelles il s'est déjà prononcé. Et donc ça permet de savoir si effectivement c'est bien une loi qui n'a pas encore été validée et donc si la question est bien susceptible d'être envoyée au Conseil. Et le dernier critère, donc, alors s'agissant des juges de cassation, donc la Cour de cassation ou le Conseil d'État, le juge du filtre ultime, c'est que la question présente un caractère sérieux. Vous aurez observé qu'il y a une différence de niveau. Au niveau des juridictions de première instance ou d'appel, il faut simplement que la question ne soit pas dénuée de caractère sérieux. En revanche, le Conseil d'État ou la Cour de cassation doit juger que la question présente un caractère sérieux. Il y a une autre possibilité de renvoyer une question au Conseil constitutionnel, même si la juridiction du filtre n'est pas totalement convaincue que la question présente un caractère sérieux, c'est le fait qu'il s'agisse d'une question nouvelle. Alors, une question nouvelle, ça peut être deux choses. Soit que les dispositions constitutionnelles qui sont invoquées pour soutenir que la loi contestée est contraire à la Constitution, que ces dispositions donc n'aient pas déjà été soumises au Conseil constitutionnel. C'est quelque chose qui est de plus en plus rare, parce que le Conseil constitutionnel, depuis donc mars 2010, entrée en application de la procédure, s'est déjà prononcé sur un grand nombre de principes constitutionnels. Le principe sur lequel il s'est probablement le plus souvent prononcé étant le principe d'égalité, mais la liberté d'expression, enfin tous les principes, tous les droits et libertés que la Constitution garantit ont pour la plupart déjà été examinés par le Conseil constitutionnel. Mais il y a aussi un autre élément qui est susceptible type de faire qu'on puisse considérer qu'une question est nouvelle, c'est qu'il s'agit d'une question d'un intérêt particulier, par exemple des questions qui portent sur des sujets de société. Et il est arrivé dans les années récentes que, par exemple, soient renvoyées au Conseil constitutionnel des questions portant sur la fin de vie ou aussi sur la procréation médicalement assistée. Ce sont des questions qui, même si en fait elles n'étaient pas forcément convaincantes au titre, disons, de leur caractère sérieux, étaient quand même des questions sur lesquelles il semblait opportun que le Conseil constitutionnel se prononce.
Les membres du Conseil constitutionnel.
Il faut dire une chose qui est importante, c'est que le législateur, lorsqu'il a mis en place la question prioritaire de constitutionnalité, a tenu à ce que ça ne représente pas un allongement de la justice, alors même que c'est quand même un des sujets de préoccupation des Français, la lenteur de la justice. Donc, il a prévu que devant la juridiction de première instance ou la juridiction d'appel, lorsque la QPC est soulevée, ces juridictions doivent se prononcer sans délai. Il a en plus prévu des délais extrêmement précis devant la juridiction du filtre, donc la Cour de cassation ou le Conseil d'État, qui dispose d'un délai de 3 mois pour se prononcer et décider si oui ou non la question est renvoyée. Au terme de ce délai, la question, si par hasard ce délai n'est pas respecté, la question est automatiquement renvoyée au Conseil constitutionnel. Alors j'en viens au Conseil constitutionnel et donc à son rôle dans la procédure de la QPC. Lui aussi a donc un délai fixe qui est de 3 mois et qu'en fait il a toujours respecté et même, à dire vrai, il a statué en moyenne plutôt, je crois, autour de 72 jours. Donc vous voyez que c'est un aspect important, la procédure est faite pour éviter que ça n'aboutisse à un très grand allongement du temps de la justice. Alors, il va y avoir d'abord une audience, c'est-à-dire que les avocats de la partie qui soulève la QPC, vont venir plaider devant le Conseil constitutionnel, défendre donc le caractère contraire à la Constitution de la loi qui est contestée. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez nouveau, parce que ça a vraiment introduit le principe du contradictoire. Face à l'avocat qui va plaider que la question est contraire à la Constitution, il y a un représentant du secrétariat général du gouvernement qui va, lui, défendre la loi. Il faut bien qu'il y ait deux parties, donc le représentant du gouvernement, sauf cas vraiment exceptionnel, lui soutient toujours que la loi est conforme à la Constitution. Au terme de cette audience, dans un délai qui est à peu près de l'ordre de 10 jours, le Conseil va ensuite délibérer et statuer donc sur la question qui lui a été présentée et dire si oui ou non la loi est conforme à la Constitution. Alors, le Conseil constitutionnel, lorsqu'il est donc saisi d'une QPC, a finalement trois solutions. Soit il peut valider la loi et dire que la loi contestée est parfaitement conforme à la Constitution, n'est pas contraire aux principes qui ont été invoqués par le requérant. Il peut aussi censurer, constater que la loi est effectivement contraire à la Constitution. Et il a enfin la possibilité de valider, mais avec des réserves. C'est-à-dire qu'il va dire que la loi est conforme à la Constitution, mais sous réserve qu'elle soit interprétée d'une certaine manière. Donc, en quelque sorte, limiter la portée qu'on aurait pu donner à la loi. Alors, ce qui est important à dire, c'est que si le Conseil constitutionnel censure la loi disparaît de l'ordre juridique. Elle est soit abrogée, s'il s'agit d'une loi qui est encore en vigueur, soit privée d'effet, si c'est une loi qui n'est plus en vigueur. Il peut y avoir des questions prioritaires de constitutionnalité sur des lois qui ne sont plus en vigueur parce qu'elles ont pu produire des effets. Et donc, il est important que, le cas échéant, il puisse y avoir une contestation sur ces lois. Je prendrai un exemple qui est assez frappant. Il y a quelques années, nous avons été saisis d'une QPC sur la garde à vue des mineurs il y a plus de 40 ans. Et à cette époque, il n'y avait aucune obligation que le mineur gardé à vue bénéficie d'une visite médicale, bénéficie de l'assistance d'un avocat, bénéficie de la présence de ses parents ou même que ses parents soient prévenus. C'est une loi qui, bien sûr, n'était plus en vigueur. Entre-temps, on a beaucoup mieux encadré la garde à vue, mais il n'empêche que cette loi a été censurée, ce qui veut dire que des déclarations qui avaient pu être faites en garde à vue dans ce cadre contraire à la Constitution ne pouvaient plus être invoquées dans une procédure judiciaire. Bon. Lorsque le Conseil constitutionnel censure, il peut se faire que sa décision, si elle était appliquée immédiatement, ait des conséquences excessives. Exemple, je reprendrai un exemple, l'exemple de la garde à vue. En 2010, le Conseil constitutionnel a censuré la garde à vue précisément pour introduire la présence de l'avocat lors de la garde à vue. Si cette censure avait eu un effet immédiat, ça signifie qu'en fait, parce que c'était disposition même relative à la garde à vue qui était en cause, il n'aurait plus été possible de procéder à des gardes à vue. C'était des conséquences manifestement excessives. Donc dans ces cas-là, le Conseil constitutionnel prévoit que sa décision ne prendra effet qu'avec donc un effet différé. C'est-à-dire que c'est seulement au terme d'un certain délai dans lequel le législateur peut intervenir pour modifier la loi et la rendre conforme à la Constitution. Donc c'est une disposition également très importante. Je voudrais souligner que la QPC est une grande nouveauté. Il a fallu près de 20 ans pour qu'elle soit effectivement adoptée par le constituant. D'abord parce qu'elle permet finalement des citoyens, à des justiciables, donc de saisir directement le Conseil constitutionnel. C'est donc un progrès de l'état de droit, puisque bien sûr, n'importe quelle loi peut être contestée. Et je voudrais aussi souligner qu'elle a introduit au Conseil constitutionnel la culture du contradictoire. Parce que dans le cadre du contrôle a priori, qui est l'autre volet du contrôle que le Conseil constitutionnel exerce, cette procédure contradictoire n'était pas habituelle. En fait, il y avait une requête présentée, mais ensuite, il n'y avait pas l'équivalent des audiences qu'il y a en QPC. Et finalement, nous avons, à la suite l'introduction de la QPC, également modifié les modalités d'examen des contrôles a priori pour introduire également ce contradictoire. Et compte tenu du fait que le contradictoire dans la procédure judiciaire est un élément essentiel des droits de la défense, un élément qui est justement une exigence constitutionnelle, je pense que c'est un grand progrès que la QPC a marqué dans l'histoire du Conseil constitutionnel.
Vous voulez en savoir plus sur la QPC ? Alors rendez-vous en ligne sur le site internet du Conseil constitutionnel et sur le portail QPC 360. Vous y trouverez une base de données regroupant toutes les décisions rendues dans le cadre de cette procédure. Dans le prochain épisode, nous aborderons le rôle des acteurs de la QPC. Cet épisode des Amphis d'Amicus a été préparé et réalisé par Leobardo Arango. N'oubliez pas de vous abonner et de suivre Amicus Radio sur les réseaux sociaux.